Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames et messieurs, bonsoir. John Linden à la présentation, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 20 octobre 2023. Une édition spéciale que nous consacrons au discours à la nation hier soir du président américain Joe Biden. Dans la lancée de sa visite à Tel Aviv, le président américain a tenté jeudi, depuis le bureau ovale, de souder les Américains derrière la défense d'Israël et de l'Ukraine, afin d'arracher le consensus politique dont il a besoin pour financer ces deux causes. Nous vous proposons tout d'abord un extrait de l'adresse de Joe Biden à la nation. Vous suivrez par la suite un entretien avec nos invités, Souleymane Bachir Ndiaye, professeur de philosophie à Columbia University à New York, et Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Entretien conduit par Timothée Donangmaï et Idrissa Sedoudia.
Ce matin, je suis rentré d'Israël. J'étais le premier président des États-Unis à m'y rendre pendant une guerre. Et j'ai rencontré des Israéliens qui ont vécu des moments d'horreur. Ils ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre. Plus de 1000 personnes tuées en Israël, y compris au moins 32 citoyens américains, des douzaines d'innocents. Des petits-enfants, des grands-parents, des Israéliens, des Américains. Et nous poursuivons toutes les voies pour adresser ce défi. Et en tant que président, il n'y a rien de plus important que la sûreté des otages américains. Le Hamas est le mal dans le monde. Il n'y a pas de limite aux horreurs qu'ils commettent quand ils veulent commettre. Et ils sont choqués et en peine et en douleur. Et je réitère qu'on est engagé au droit à la dignité. Les actions du Hamas, ont vraiment frappé les États-Unis. Je suis, comme tous, j'ai le cœur brisé. Et cette attaque contre l'hôpital à Gaza n'a pas été commise par les Israéliens. Toutes ces vies perdues, on ne peut pas ignorer la souffrance des Palestiniens qui seulement veulent vivre dans la paix. Et vous savez, ceci me fait penser aux 20 mois de guerre, de tragédie et de brutalité infligées au peuple d'Ukraine. Des gens qui ont été vraiment affectés par cette guerre. Et il ne faut pas oublier les tombes en masse, les corps trouvés qui portent les signes de torture et des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été de force emportés en Russie, volés ou dans les bras de leurs parents. Le Hamas représente une menace différente, mais ils partagent ceci. Ils veulent tout à fait annihiler une démocratie. C'est la destruction de l'État d'Israël.
Hamas
ne représente pas le peuple palestinien. Il utilise la violence, ce qui affecte les familles palestiniennes innocentes. Bon, en attendant, Poutine a attaqué l'Ukraine. Et il dit que l'Union soviétique a créé l'Ukraine. Et il y a deux semaines, il a dit le monde que les États-Unis et nos alliés, si nous nous retirions, il le ferait également. Je sais qu'on ne va pas se retirer. Je sais que ces conflits peuvent sembler très loin. Et c'est naturel de vous demander pourquoi est-ce que c'est important pour moi. Permettez-moi de partager avec vous pourquoi il faut s'assurer que l'Ukraine soit couronnée de succès. C'est important pour l'avenir des États-Unis. L'histoire nous enseigne que lorsque les terroristes ne payent pas le prix de leur terreur, lorsque les dictateurs ne payent pas le prix de leurs crimes, ils provoquent davantage de chaos, davantage de morts, davantage de destruction. Mais si nous tournons notre dos contre Israël et l'Ukraine, on ne sait pas ce qui va advenir. Voilà pourquoi je vais envoyer demain au Congrès une demande urgente de financement pour appuyer nos partenaires critiques, y compris Israël et l'Ukraine. C'est un investissement intelligent qui va payer des dividendes pendant des générations à venir et qui va maintenir les troupes américaines saines et sauves, qui va aider à garder un monde plus sûr, plus sain, plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Israël doit s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour se protéger aujourd'hui et pour toujours. Nous vont chercher à apporter de l'aide humanitaire pour les Palestiniens d'une manière durable. C'est difficile, mais nous ne pouvons pas abandonner la paix. Nous ne pouvons pas abandonner la solution de deux États. Les Israéliens, tout comme les Palestiniens, méritent de vivre dans la sécurité et dans la paix. Enragés, vous vous dites, voilà, on est reparti. L'islamophobie, comme on a vu après le 11 septembre, la semaine dernière à peine, quelqu'un a donné des coups de poignard. Un petit garçon de 6 ans a été assassiné à Chicago. Il s'appelait Wadia, un Américain, un Palestinien, une famille palestinienne américaine. On ne peut pas rester silencieux face à ces crimes. Il faut le dénoncer sans équivoque. Il faut également, sans équivoque, dénoncer l'islamophobie. Mais le temps presse. Je sais que nous avons nos divisions chez nous. Nous devons les surmonter. Nous ne pouvons pas laisser les politiques partisanes éviter que nous assumions nos responsabilités en tant que pays. Nous ne pouvons pas laisser des terroristes tels que le Hamas ou des tyrans comme Poutine l'emporter. Je refuse d'accepter cela. Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous souvenir qui nous sommes, ce que sont les États-Unis. Les États-Unis, il n'y a rien qui soit au-delà de nos quatre capacités si nous le faisons tous ensemble. Chers Américains, merci de votre temps. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu protège nos troupes.
C'était le discours du président Biden, un important discours de politique étrangère. Je suis Timothée Donangmaï dans ce studio 8 de VOA Afrique, ici à Washington, et avec moi Idrissa Seydoudia. Donc Idrissa, comme nous l'avons annoncé au début, le président Biden s'est penché sur deux grands sujets d'actualité, la situation à Gaza où les forces israéliennes affrontent le Hamas et la situation en Ukraine où les Ukrainiens se battent contre l'invasion russe.
Oui, effectivement, et d'emblée, il a parlé des horreurs commises par le Hamas contre le peuple israélien ce 7 octobre et ce qui s'en est suivi depuis. Mais en même temps, tout en reconnaissant le droit d'Israël à à se défendre, ce qu'il n'a cessé de répéter et que toutes les précédentes administrations américaines n'ont cessé de répéter depuis cette crise au Moyen-Orient, il a quand même rappelé que Israël devrait tenir compte des lois de la guerre et que Israël devrait faire la différence entre le Hamas, qu'il a qualifié d'organisation terroriste, et le peuple palestinien. Et il a rappelé ce qu'il a pu obtenir lors de son récent séjour en Israël, il s'agit particulièrement de l'aide humanitaire que l'on voit pouvoir acheminer de la frontière égyptienne à Gaza pour aider les populations à faire face aux horreurs et aux conséquences de la guerre actuelle. Il a demandé aussi à Israël de ne pas commettre, il comprend la colère des Israéliens et l'horreur suscitée par l'attaque du Hamas du 7 octobre, mais il a demandé aux Israéliens de ne pas commettre les mêmes erreurs que les Américains après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Et que donc, il a en même temps, en quelque sorte, aussi parlé de qu'est-ce qu'il faut faire après le Hamas aussi. Parce que cette crise, et c'est moi qui l'ai dit, cette crise dure depuis 1948. Oui. Depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël, il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu la guerre déjà en 1948, ensuite en 1967, en 1973. Et puis maintenant, bon, il y a eu pas mal d'accrochages entre Israéliens et le Hamas, etc. Mais on a vu par la suite que ce qui s'est passé le 7 octobre était sans précédent. Et ça a montré que Israël n'était pas à l'abri, n'était pas aussi invincible qu'on le pensait.
Alors, Idrissa, la régie m'annonce que nous avons en ligne le professeur Souleymane Bachir Ndiaye de Columbia University, l'Université Columbia de New York. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Alors, professeur, nous revenions sur cet important discours de politique étrangère du président Joe Biden qui a parlé de deux grands sujets, la situation à Gaza et l'aide à l'Ukraine. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce discours?
Mais écoutez, justement, le parallèle qui est fait là, parce qu'on se rend bien compte que la politique étrangère des États-Unis est en jeu. Il y a deux grandes crises dans lesquelles les États-Unis sont engagés. La crise israélo-palestinienne, la guerre en fait entre Israël et le Hamas et la bande de Gaza. Et d'autre part, l'Ukraine, avec une insistance qui m'a frappé, c'est une insistance très forte sur l'Ukraine, parce que on voyait que dans son discours, il passait de l'un à l'autre, d'Israël à l'Ukraine, presque d'une phrase à l'autre, parce que il a le sentiment que l'Ukraine est en train d'être oubliée. Alors, les deux situations ne sont pas tout à fait symétriques. Il faut se souvenir que le soutien à Israël ira probablement de soi pour le Congrès, pour la Chambre basse comme pour le Sénat. En revanche, on sait que les républicains, une partie importante des républicains, est hostile à la continuation de l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine. Et donc, c'était ça également un des enjeux qui explique une insistance particulière du président Biden sur l'Ukraine, en rappelant les atrocités qui ont été commises en Ukraine également, comme s'il s'agissait de dire qu'il ne faut pas que les atrocités auxquelles on assiste en ce moment en Israël, dans la bande de Gaza, nous fassent oublier qu'il y a eu et qu'il y a toujours des atrocités du côté de l'Ukraine. Voilà ce qui était frappant déjà dans un premier temps dans le discours du président Biden.
Oui, professeur, il est clair que le président est conscient du fait que l'Ukraine pose problème, l'argent donné à l'Ukraine. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Congrès, particulièrement la Chambre des représentants, est actuellement dans l'impasse quand il s'agit de nommer et de d'élire un président de cette Chambre basse. C'est à cause de l'aide à l'Ukraine. Donc, en essayant de coupler les deux et de mettre l'accent sur l'Ukraine, il essaie de montrer que, en fait, c'est tout aussi crucial, parce que l'aide à Israël ne posera pas de problème du tout. Ça n'a jamais posé de problème au niveau des États-Unis. Et que donc, il faut se rendre compte que c'est tout aussi crucial pour l'Ukraine et pour éviter, comme il l'a dit, d'encourager les agresseurs potentiels en disant « mais on a laissé faire en Ukraine ». Eh ben, ça pourrait tenter aussi la Chine à aller reprendre Taïwan.
Absolument, vous avez parfaitement raison. Et c'est la raison pour laquelle il compte sur une sorte d'effet d'entraînement du package, en faisant un seul grand package pour que les sommes qui vont être orientées vers le soutien à Israël emportent avec elles, en quelque sorte, entraînent avec elles une aide à l'Ukraine. Et d'ailleurs, vous avez raison, l'une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à élire un président de l'Assemblée, c'est précisément la question ukrainienne, entre autres.
Vous écoutez VOA Afrique en direct de Washington, Timothée Dounangmaï, en votre compagnie. Je suis avec Idrissa Seydoudia dans ce studio 8 de VOA Afrique ici à Washington. Et nous avons en ligne le professeur Souleymane Béchir Ndiaye, professeur de philosophie à Columbia University. Et professeur, le récent voyage du président Biden avait un objectif très ambitieux: pousser les efforts diplomatiques un peu plus loin en rencontrant les leaders de la région. Mais de ce côté, les choses n'ont pas marché comme prévu.
Et non, parce qu'il y a eu l'imprévu majeur qui était le bombardement de l'hôpital de Gaza. Évidemment, sur le coup, il fallait marquer le coup, et on imagine très mal, évidemment, le leader de l'autorité palestinienne aller à la rencontre du président américain après cette tragédie. De la même manière, le président jordanien ne pouvait pas non plus y aller, et donc le roi de Jordanie, pardon, ne pouvait pas y aller non plus, et donc la rencontre a été annulée.
Professeur, on sait aussi que pendant qu'il a appuyé son message de solidarité et de soutien aux Israéliens après cet événement du 7 octobre, cette tragédie du 7 octobre, le président Biden a aussi tenu à rappeler qu'il est attaché à la solution des deux États.
Oui, et on a remarqué d'ailleurs que ce soir encore, il est revenu sur cette expression des deux États. C'était important. Je crois que c'était important. Il a évidemment tenu dans ce voyage à essayer d'indiquer une porte de sortie. Il est bien évident qu'après les tragédies, la tragédie du 7 octobre, la tragédie qui est une tragédie quasiment quotidienne dans la bande de Gaza, il n'est pas question de revenir au statu quo. Je crois que les Palestiniens se sont rappelés au bon souvenir du monde, parce que jusqu'ici, la diplomatie dite des accords d'Abraham avait en quelque sorte mis entre parenthèses la question palestinienne. Elle s'est rappelée au monde de manière tonitruante. Et donc, il est bien évident qu'il faut essayer de voir au-delà des tragédies actuelles et d'indiquer une vision pour l'avenir. Au sortir de la crise actuelle, au sortir de la guerre qui a lieu en ce moment, il faut bien que des solutions soient dessinées qui empêchent que les tragédies se répètent, vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis des décennies et des décennies.
Professeur, tout le monde semble apparemment d'accord sur la solution des deux États, mais depuis qu'on en parle, l'idée n'arrive pas à progresser sur le terrain. Qu'est-ce qui constitue le blocage?
Alors, vous savez, si on prend la solution des deux États, il y a des extrêmes qui n'en veulent pas. Il y a le fait que aujourd'hui nous avons affaire à une droite israélienne extrême qui ne se cache pas de ne pas souhaiter du tout l'existence d'un État palestinien. De la même manière, c'est vrai que le Hamas n'a pas reconnu non plus l'existence d'Israël. Alors donc voilà deux extrêmes, si vous voulez, qui s'opposent à chacun de son côté et pour ses raisons propres, à la solution des deux États. Mais les raisons de penser que quelque chose va bouger, c'est que ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer est totalement sans précédent. La tragédie du 7 octobre, vous le rappeliez tout à l'heure, Israël n'avait jamais connu cela. Eh bien, l'ampleur même de cette crise, l'ampleur des catastrophes et du désastre humain de tous les côtés que la crise actuelle est en train de provoquer, cette ampleur-là fait que la solution des deux États, cette fois-ci, je crois, à une urgence qui n'a pas été toujours le cas depuis le temps qu'on en parle.
Professeur, il y a eu les retombées internes, si je puis dire, de cette tragédie ici aux États-Unis. Un enfant de 6 ans a été tué par son logeur et sa mère grièvement blessée, tout simplement parce qu'ils sont musulmans. Et le président est revenu là-dessus.
Je crois qu'il a bien fait et il a eu les mots qu'il fallait, me semble-t-il. C'était très important de prononcer le nom de cet enfant, Wadea. Et il a tenu à prononcer le nom de cet enfant, à l'humaniser, à rappeler que la haine est une et que la haine est toujours quelque chose qui brûle tout sur son passage. La haine ne fait qu'engendrer la haine.
Professeur, Tim l'a dit tout à l'heure, le président a proposé une aide de 100 millions de dollars pour Gaza et la Cisjordanie, une aide humanitaire. Mais les réalités américaines font que, par exemple, Ron DeSantis, qui est l'un des adversaires de Donald Trump, il vient loin derrière lui, mais en deuxième position, un adversaire de l'ancien président Donald Trump aux primaires républicaines, Ron DeSantis a dit qu'il était contre cette aide de 100 millions de dollars parce qu'elle pourrait tomber entre les mains du Hamas.
Ben oui, malheureusement, c'est vrai que l'atmosphère actuelle est une atmosphère, on le sait, électorale. Ça veut dire que les propos qui semblent être les propos les plus à droite, malheureusement, sont ceux qui sont le mieux entendus par un électorat républicain aligné majoritairement sur le président Trump. Et donc, c'est vrai qu'un candidat comme le gouverneur DeSantis se sent quasiment obligé d'en rajouter dans des prises de position de cette nature, une sorte d'opposition radicale à tout ce qui est Hamas en principe, mais palestinien également, parce que cette aide-là, dire qu'elle va tomber fatalement entre les mains du Hamas et que c'est la raison pour laquelle on refuse une aide dont on sait à quel point elle est nécessaire, parce que le désastre humanitaire aujourd'hui à Gaza crève les yeux. Voilà un territoire qui est dépourvu de tout. Alors, les considérations politiques qui font qu'effectivement on en rajoute dans l'opposition à tout ce qui est palestinien, c'est très malvenu.
On me signale que nous sommes rejoints au téléphone par l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Bonsoir, ambassadeur.
Bonsoir.
Alors, le président Biden vient de prononcer cet important discours de politique étrangère et qui s'est axé sur la situation à Gaza et la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours?
Je crois que le président Biden a voulu dire à deux grands alliés des États-Unis, c'est-à-dire Ukraine et Israël, que nous sommes toujours avec eux dans la lutte contre le terrorisme. Il a dit que demain, il va envoyer un projet de loi au Congrès qui va donner une grande somme d'argent aux deux alliés, Israël et Ukraine, pour aider ces pays dans la lutte contre le terrorisme. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et il est très loyal toujours à nos deux grands alliés, Ukraine et Israël. Et j'en suis fier. Je crois qu'il fait ce que les Américains voudraient qu'ils fassent. Aider ces deux pays qui sont en difficulté à cause du terrorisme. Venant de l'ancienne Union soviétique, la Russie, et aussi de Hamas.
Professeur, il va essayer de lier les deux, en faire un package. Est-ce que c'est une tactique de sa part pour éviter que ceux qui veulent aider Israël et ne veulent pas aider l'Ukraine acceptent le tout?
Oui, il veut surtout être sûr, il a mis tout ça dans un paquet pour être sûr que certains républicains ne vont pas voter contre l'Ukraine.
C'est la fin de cette édition spéciale de l'Amérique et vous, que vous pourrez réécouter sur notre site internet voafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Présentation John Linden, Timothée Donangmaï et Idrissa Sedoudia. Production Michel Joseph. Merci d'avoir suivi.